Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec les Neveux de René, une émission consacrée à l'étude des textes classiques de la philosophie. Je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2017, qu'elle soit fructueuse en bonne pensée, en bonne méditation et en lecture intéressante. Alors, en rapport avec l'exposition Pascal qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque François Mitterrand à Paris, nous continuons à discuter du travail scientifique et philosophique de Blaise Pascal. Donc, pour rappel, nous avons consacré déjà deux émissions sur le thème Pascal savant et nous allons continuer sur ce thème. Nous ferons ensuite une rediffusion des deux émissions précédentes qui avaient été diffusées lors des vacances d'hiver et enfin de Noël. Et nous allons discuter du rapport de Pascal à Descartes. Un rapport qui est d'abord un rapport de deux savants, donc de deux scientifiques, on dirait de nos jours, qui ont des différences sur certains points. On avait parlé de la querelle autour de l'existence du vide, mais aussi nous commencerons à aborder le thème, les thèmes plus métaphysiques, et nous verrons comment science et philosophie s'articulent. Alors, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous résumer les dernières émissions, puisque Nicolas, notre ami Nicolas, le maître des résumés, n'est malheureusement pas là pour cette émission, et j'espère qu'il sera là avec nous pour les prochains enregistrements.
Oui, tout à fait. Alors, donc effectivement, lors des deux dernières émissions, nous avons abordé donc l'œuvre de jeunesse de Blaise Pascal, l'œuvre du Pascal savant. Nous avons vu sa contribution à la question du vide et en lisant sa préface au traité du vide, nous avons entendu comment il concevait son rapport aux anciens, notamment Aristote, qui faisait jusque-là autorité sur la question du vide. Dans un certain nombre de domaines de la connaissance, dont ce que nous appelons aujourd'hui les sciences physiques, l'opinion des anciens ne peut constituer toute la science. Leur affirmation doit pouvoir être vérifiée par l'expérience, c'est-à-dire un ensemble de manipulations visant à isoler un phénomène et à effectuer à cette occasion des mesures quantifiées. Donc l'expérience est le juge de paix. C'est par l'expérience qu'on arrive à décider, à trancher une question. Elle seule fait autorité. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter la science des anciens, mais considérer que leur science n'est pas achevée. D'ailleurs, on peut noter que la science n'est pas achevable et qu'il convient de faire prospérer leur héritage pour le faire progresser et accroître indéfiniment, génération après génération. On fait comme ça, on augmente la somme des connaissances, la génération suivante s'appuyant sur les précédentes, comme des nains s'appuient sur les épaules des géants. L'homme, animal social capable de transmettre sa connaissance à ses enfants, n'est donc fait que pour l'infini. Nous avons ensuite discuté deux points. Cette reconnaissance envers les anciens n'a-t-elle pas diminué à l'excès depuis quelques décennies? Dans le domaine des sciences, qui aujourd'hui a lu les grands textes originaux des savants qui ont marqué leur discipline? C'est une question, une interrogation qu'on peut se poser. Ensuite, Pascal, comme tous ceux situés à l'aube des sciences modernes qui vont engendrer une augmentation vertigineuse des connaissances, n'envisage qu'un progrès continu. Or, le fait est que si l'humanité a beaucoup appris ces derniers siècles, elle a aussi beaucoup oublié. On avait d'ailleurs cité quelques exemples comme la construction des pyramides ou d'autres choses. Donc le domaine des connaissances a certes grandi, mais c'est aussi déplacé en fait. C'est plus un déplacement, alors il y a une croissance, mais pas que. De plus, Pascal, contrairement à nous, n'envisage pas un instant que l'humanité puisse un jour régresser, une fois ce mouvement de progrès enclenché. Donc voilà un petit peu là où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà.
Merci Sylvain. Donc si je reprends la controverse qui a lieu, c'est celle qui a trait à l'existence ou non du vide. Donc on avait dit que ce qui pose problème, c'est que ça contredit les dogmes qui avaient été figés lors du Moyen-Âge avec ce qu'on appelle la scolastique. Et le Moyen-Âge tire lui-même... appuie son autorité sur Aristote. Or, de simples expériences physiques vont permettre de contredire ça, et la question c'est de savoir, lorsque je cherche à monter un liquide, qui peut être de l'eau ou du mercure, autrement appelé le vif argent à l'époque, plus haut qu'une certaine hauteur, je n'y arrive pas en aspirant, pourquoi ? Si la nature a toujours horreur du vide, le mercure devrait monter aussi haut indéfiniment. C'est pas ce qu'on observe, il faut expliquer ça. Et on sait que c'est Blaise Pascal qui a montré, on l'avait dit lors des deux émissions précédentes, que le fait que le mercure ou l'eau monte, ce n'est pas parce qu'il y a une horreur du vide, c'est parce que de l'autre côté de la colonne, il y a tout le poids de l'atmosphère qui a pu dessus. Et donc, c'est une vision, pour montrer cette chose-là, il faut déjà avoir une vision du monde et une vision qu'on peut appeler éminemment cartésienne. Alors, une petite anecdote, un petit point intéressant de l'histoire des sciences, c'est que dans la correspondance de Descartes, on peut lire un passage intéressant où Descartes dit que c'est lui qui a suggéré à Pascal de faire ses expériences où il a montré que la colonne d'air, la colonne de mercure ou d'eau variait selon la hauteur. Donc, expérience qui a été d'abord faite au Puy-de-Dôme, qui a été répétée à Paris, à la Tour Saint-Jacques. Alors, peut-être on peut donner la parole à Anne, qui va nous lire le début de cette lettre que Descartes adresse au père Mersenne.
Il y a déjà quelque temps que M. de Julichesne m'a envoyé l'imprimé de M. Pascal, de quoi je remercie l'auteur, puisque c'est de sa part qu'il m'est envoyé. Il semble y vouloir combattre ma matière subtile, et je lui en sais fort bon gré. Mais je le supplie de n'oublier pas à mettre toutes ses meilleures raisons sur ce sujet, et de ne pas trouver mauvais si, en temps et lieu, j'explique tout ce que je croirais être à propos pour me défendre. Vous me demandez un écrit touchant les expériences du vif argent, et néanmoins, vous différez de me les apprendre, comme si je devais les deviner, mais je ne dois pas me mettre en hasard de cela. Parce que, si je rencontrais la vérité, on pourrait juger que j'en aurais fait ici l'expérience. Et si j'en manquais, on aurait moins bonne opinion de moi. Mais s'il vous plaît me faire part ingénument de tout ce que vous avez observé, je vous en aurai obligation. Et en ce cas qu'il arrive que je m'en serve, je n'oublierai pas de faire savoir de qui je les tiens. J'avais averti M. Pascal d'expérimenter si le vif argent montait aussi haut, lorsqu'on est au-dessus d'une montagne, que lorsqu'on est tout en bas. Je ne sais s'il l'aura fait.
Ouais. Merci Anne. Donc ce qui est remarquable, c'est que là, Pascal finalement revendique la paternité de l'expérience. Descartes revendique la paternité de cette expérience, quoi.
Oui. Apparemment. Oui.
Alors, il se trouve, on saura jamais. Hein, on saura jamais qu'est-ce qui s'est passé entre, parce qu'on sait que Pascal et Descartes se sont rencontrés deux fois. Mm-hmm. Ça s'est pas très bien passé entre eux. Je crois qu'il y a même une pièce de théâtre qui est née de qui imagine quoi. On n'a pas les comptes rendus malheureusement de les protocoles de cette rencontre, mais ça s'est pas très bien passé entre eux. Bon, Pascal était beaucoup plus jeune que Descartes, pas beaucoup plus jeune. Descartes est né en 1596, Pascal est né en 1623, donc ça fait une trentaine d'années, 25-30 ans. Bon, ça fait quand même beaucoup, c'est vrai, à l'époque. Donc, il a dû trouver que Pascal était un petit...
Impertinent.
Voilà. Bon, alors, Anne, quels sont les termes qui t'interpellent ou qui te surprennent, peut-être dans le lexique de cette lettre? Est-ce qu'il y a des choses, ou Sylvain, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent?
Je sais pas, mais déjà, Descartes dit « Je n'oublierai pas de faire savoir de qui je les tiens ». Donc, je me demande si là, il n'y a pas un petit peu une querelle, justement, pour qui est l'auteur, et Descartes disant « Moi, quand je fais une expérience, je le fais savoir », donc accusant vraiment Pascal, lui, de ne pas lui avoir rendu cette politesse.
C'est vrai, j'avais pas vu ça aussi.
Ouais, moi non plus.
Non, mais on peut très bien le penser. C'est-à-dire, et puis, c'est drôle, hein, parce que on voit bien que c'est par exemple au XVIIe siècle commence un trait que nous qui sommes des universitaires qu'on connaît bien, c'est qui a trouvé le premier qui va trouver ça et qui va publier le premier, et il faut surtout montrer qu'on est le premier à l'avoir fait. La paternité, voilà, c'est quelque chose de central. Ouais. Et puis aujourd'hui, donc avec tout le mouvement des brevets, de tout ça, des publications, c'est une lutte féroce pour savoir qui le premier va faire une découverte. Alors, d'autres remarques par rapport à... Moi, ce qui me plaît aussi dans cet extrait de lettre, c'est que le mot vérité apparaît en toutes lettres. C'est-à-dire, aujourd'hui, les scientifiques font tous mine de ne pas trancher de la, sur la question de la vérité. Dès qu'on dit à un scientifique qui s'attache à la vérité, il dit « Oh non, non, surtout pas, la vérité, ça n'existe pas, c'est toujours remis en cause. Il faudrait y regarder de plus près. » Voilà.
Oui.
Et puis, donc cette matière subtile dont il est question, c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisque je pense que Descartes dit que là où Pascal dit « il y a du vide, il y a du vrai vide », Descartes aurait dit « non, il n'y a pas du vrai vide, il y a une matière, mais tellement subtile qu'on ne peut pas la connaître ». Je pense que c'est comme ça qu'il faut
Du coup, d'après ce que j'ai pu comprendre des explications de Nicolas, il est plus proche de la vérité pour le coup, de la vérité scientifique.
Tu dis qui ?
Descartes.
Alors, pas tout à fait, parce que ni l'un ni l'autre.
Il n'y a pas du vrai vide.
Il n'y a pas du vrai vide. Il n'y a pas du vrai vide, mais en même temps, il n'y a pas non plus cette matière subtile.
Non, c'est pas voilà, tout à fait c'est ça, mais ça en tout cas, il dit qu'il y a quelque chose quand même.
Voilà, voilà.
Il n'y met pas du vide.
Effectivement. Donc on ne peut pas, ce que tu dis, Sylvain, c'est qu'on ne peut pas donner clairement la raison à Pascal contre Descartes non plus, ou contre les gens qui opposaient. Mais là où Pascal va faire le mouvement décisif, c'est qu'il va faire exploser un certain dogme.
Ah oui, oui, complètement.
Et
oui.
Là, on peut dire vraiment qu'il en est redevable à Descartes et à la façon de penser.
Et quelque part, cartésien. Oui, c'est un pas vraiment important sur effectivement la science expérimentale, qui permet justement de conforter les idées, les modèles qu'on peut avoir. Hein, il faut absolument valider les modèles avec des expérimentations qui permettent de confirmer les prédictions qu'on va avoir.
Anne, tu voulais ajouter quelque chose, un commentaire par rapport à ça ?
Par rapport à ça, non, pas spécialement.
Non, pas spécialement. D'accord. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale et de revenir après la pause pour discuter des autres apports centraux de Pascal, à savoir Pascal, mathématicien et inventeur d'une machine à calculer.
RCF.
Donc nous sommes avec les neveux de Romney, Chemin de pensée. Nous continuons notre dialogue autour de Pascal, Pascal savant, Pascal philosophe. Alors un des points qui est important, actuellement donc on a parlé d'une exposition qui se tient à la BNF, il y a dans cette exposition un objet qui est de première importance, qui est la pascaline. Alors, en dehors de cette exposition, la pascaline, on peut la voir
au musée des arts et métiers.
Au musée des arts et métiers, elle est, et c'est pas une seule pascaline. Il y en a plusieurs exemplaires. Alors, Sylvain, est-ce que tu souhaites présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette pascaline ?
Oui, donc effectivement, donc la pascaline, en fait, c'est une machine que Pascal a conçue pour aider son père, qui avait des charges effectivement, notamment de trésorerie, de comptabilité, on va dire. Pour simplifier, et donc pour aider, du coup, il a réfléchi à essayer de construire une machine qui permettait de faire des calculs, donc notamment des additions, des soustractions, éventuellement des conversions de monnaie. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu construire, du coup, sa machine, la pascaline, qui permet de faire, on va dire, mécaniquement, ces calculs.
Alors, il faut savoir que le titre officiel d'Étienne Pascal, qui est le père de Blaise Pascal, c'est celui de président à la cour des aides de Clermont. Voilà. Alors, il était donc le fils lui-même de Martin Pascal, né en 1588, conseiller du roi, trésorier de France et général de ses finances. Donc, ça veut dire qu'il devait être quelque part percepteur des impôts. Enfin,
oui,
je suis pas sûr de la réalité historique.
Comptable à faire, quoi.
Voilà. Et donc, il avait une charge en rapport sûrement avec la perception des impôts. Et je crois avoir lu quelque part que le fait, donc, que le père de Pascal se soit déplacé de Paris, en Auvergne, à Clermont, c'était parce qu'à un moment, il s'était opposé à une certaine politique financière du roi, pas forcément d'ailleurs en faveur du peuple pour défendre, mais et qu'il avait eu quelques problèmes et qu'il valait mieux pour lui aller en province.
Ouais.
Voilà. Donc, il conçoit une machine dont il entend tirer profit, puisqu'il veut la breveter, entre guillemets, il appelle pas ça comme ça, mais il la présente au roi, et il dit ça va aider donc son père, mais aussi d'autres personnes, oui, à faire plus facilement les calculs. Donc, c'est l'ancêtre, finalement, de l'ordinateur.
Alors, pour le coup, pas tout à fait. Parce qu'en fait, effectivement, la Pascaline, même si bien sûr c'est un automate, en fait, hein, c'est une machine très ingénieuse qui permet de faire des calculs, mais qui permet de faire, on va dire, des calculs bien spécifiques, hein, des additions, des soustractions. Donc c'est un automate qui est vraiment spécialisé pour faire une tâche. C'est, à la limite, un peu la même chose que les automates humanoïdes qu'on voyait à l'époque, hein, les petits automates qui permettaient par exemple de danser, ou enfin qui faisaient, ou des faux pianistes, ou des choses comme ça. Il y avait une mode à un moment donné pour faire des petits automates comme ça animés, en fait, des petits personnages animés en bois.
Et d'ailleurs,
au final, c'est la même chose, sauf que là, on fait des calculs plutôt que de faire bouger un personnage.
Et d'ailleurs, juste une parenthèse, je sais pas si tu te souviens, Sylvain, on en avait discuté, mais il y a, ces automates vont beaucoup impressionner aussi Descartes, qui vont dire finalement, quand je vois quelqu'un, est-ce que je sais,
voilà,
si
c'est ça,
pas
c'est
un automate, hein.
On commence à réfléchir à, voilà, l'association automate et être vivant.
Et donc, Anne, est-ce que tu voudrais dire pourquoi c'est pas un ordinateur, de, selon toi, cette machine à calculer? Comment tu définirais un ordinateur?
Oui, alors là, je vous renvoie quand même la parole, puisque vous êtes tous les deux informaticiens.
Mais toi, tu travailles dans un laboratoire d'informatique.
Oui, certes. Oui. Mais, donc, vous, ouais, êtes quand même mieux placé que moi pour, voilà, pour en parler.
Anne, en fait, l'idée, c'est effectivement la notion qui va arriver bien plus tard, hein, au milieu du XXe siècle, par Alan Turing. Et donc, en fait, c'est la notion de machine universelle qui permet justement de, on va dire, de programmer, en fait, hein, de faire à une machine plein de choses différentes. Mais... Alors, bon, là, c'est très, très résumé, évidemment, hein. Mais l'idée, encore une fois, c'est la distinction entre une machine ou un automate qui fait un seul type de travail, donc typiquement la machine de Pascal, et une machine qui va pouvoir faire différents types de choses, en fait. Et c'est justement la distinction importante à faire entre cette machine à calculer, qui ne fait que des additions, des soustractions, et un ordinateur qui fait plein d'autres choses, qui peut faire plein d'autres choses.
Et ce sera donc avec Leibniz que, oui, l'idée de programmation, alors lui, il appelle ça la caractéristique universelle, mais l'idée de machine programmable va commencer à voir le jour. Puis il y a effectivement toute une filiation,
oui, ça, ouais,
avec le métier à tisser jacquard, ouais, qui lui est programmable, mais c'est pour tisser différents motifs.
Voilà.
Métier à tisser à jacquard qu'on peut voir au CNAM, au musée du CNAM, ouais, aussi, des arts et métiers.
Oui. Ça, c'est vraiment, on pourrait dire que là, on commence à se rapprocher vraiment de l'ordinateur, mais pas encore tout à fait, puisque c'est toujours la même, on va dire, le même objectif. Enfin, on résout toujours le même problème, si vous voulez, c'est de tisser quelque chose. Mais par contre, ce qui est intéressant dans cette machine de jacquard, c'est qu'elle est, entre guillemets, un peu programmable, dans le sens où on peut modifier ce qu'on va tisser, on peut choisir, en fait, le tissage qu'on va faire en fonction, effectivement, de cartes perforées ou de choses comme ça. Donc là, il y a vraiment déjà un premier pas vers une machine.
Donc ce qui fait la force de l'ordinateur, c'est d'être capable de toujours changer le programme, en fait.
C'est ça, c'est cette idée de programmation, de pouvoir changer, en fait, finalement, la logique qui va être utilisée, et donc le fonctionnement, enfin, et alors quand je dis, ouais, c'est pas tout à fait la logique, mais l'algorithme, en fait, mais on va pouvoir donc changer le logiciel, si on veut, hein, et du coup, c'est pour ça que je parlais de logique, mais enfin, et du coup, pouvoir faire traiter, résoudre des problèmes différents. C'est, oui, ça l'intérêt de
oui,
de cette,
alors ce qui est drôle dans le mot logiciel, le mot logique, on entend le logos grec, hein, on voit le rapport à la Grèce antique. Anne, tu souhaitais nous lire un extrait des pensées, donc ces notes qui sont des notes préparatoires à quelque chose d'autre, des notes griffonnées sur le papier, où tu disais que c'était une forme d'humilité qui apparaissait chez Pascal, c'est ça? Parce que là, on est en train de montrer à quel point Pascal était grand dans ses découvertes, mais en même temps, il y a un mouvement de profonde humilité qui se dégage aussi face à ce savant qui trouve de plus en plus de choses.
Oui, oui, mais en fait, Pascal m'apparaît surtout comme un philosophe raisonnable. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu démontrer l'existence de Dieu, contrairement à Descartes. C'est celui qui s'oppose à la grande machinerie de Descartes. Donc, je ne vais pas le lire, mais on le trouvera dans l'édition Cellier, le fragment 118, sur une critique par rapport à Descartes. Mais c'est aussi quelqu'un qui, effectivement, s'est resté très humble par rapport à nos connaissances. Et par rapport à ça, il y a un fragment qui m'apparaît très intéressant. Donc, c'est le fragment 117 de l'édition Cellier, et qui est peut-être le 83 de l'édition La Fuma.
Alors, juste pour nos auditeurs, on va rappeler que les pensées n'étant pas éditées, il faut se référer à des éditions de référence.
Ouais, si différentes éditions, différentes éditions, avec des classements différents.
Avec des classements différents. Ouais. Et donc, il y a l'édition de La Fuma, l'édition de Vrangevic, l'édition de Cellier, et chacune a sa propre numérotation des fragments.
C'est ça, ouais.
Voilà, donc c'est le 117 de Cellier, donc, hein. Le monde juge bien des choses, car il est dans l'ignorance naturelle, qui est le vrai siège de l'homme. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle, où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent en cette même ignorance d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante, qui se connaît. Ceux d'entre deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Le peuple et les habiles composent le train du monde. Cela le méprise et sont méprisés. Et je trouve que il y a beaucoup de choses intéressantes et importantes dans ce fragment. Déjà, il nous dit que finalement nous ne savons pas grand chose et qu'il rejette les gens qui croient savoir, hein, les gens qui font les entendus. Et donc on reconnaît très très bien là Socrate,
oui. Hein,
et en particulier on se souvient de l'apologie de Socrate où on lui reprochait d'aller dire aux gens qu'ils ne savaient rien. Et mais il y a toujours une chose chez Pascal, c'est que quand il descend l'homme, il le rattrape toujours après et dit « Oui, certes, nous ne savons pas grand-chose, mais nous en sommes conscients. » Et là, cette phrase magnifique, il dit « C'est une ignorance savante qui se connaît. » Ça, c'est aussi tout l'art de Pascal, l'art des formules. C'est le Pascal de « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » Et ça va annoncer tout ce dont on va parler probablement après, hein, c'est-à-dire le Pascal de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, le Pascal des deux extrémités. Et entre ces deux extrémités, il y a toujours un entre-deux.
Qui se trouve au milieu.
Qui est l'homme ou qui est des fois l'imbécile ou qui est des fois la raison, tout dépend de la pensée.
Et une chose qui me parle dans ce fragment, c'est qu'il attaque de toutes ses forces ceux qu'il appelle les habiles. Donc il y a aussi une espèce de dénonciation d'un faux savoir.
Non, je crois que c'est pas les habiles qu'il attaque, c'est les demi-habiles.
Les demi-habiles.
Et les habiles, ce sont les gens justement qui savent. Ce sont les gens qui sont arrivés au point où ils ont beaucoup étudié, mais ils reconnaissent qu'ils ne savent finalement rien.
Oui.
Et les demi-habiles dont il parle dans un autre fragment sont ceux qui justement croient savoir, mais en fait ne savent rien.
C'est ça. Alors dans le fragment 101, moi j'ai l'édition donc La Fuma. Effectivement, il dit « Le peuple a les opinions très saines. Par exemple, petit 1, d'avoir choisi le divertissement et la chasse plutôt que la prise. » On y reviendra. « Les demi-savants s'en moquent et triomphent à montrer là-dessus la folie du monde, mais par une raison qu'ils ne pénètrent pas. » Voilà. Et c'est, tu as raison, c'est pas les habiles, c'est pas les savants, c'est les demi-savants. C'est-à-dire, je sais un petit peu et puis je me fais mousser pour montrer aux autres. Voilà.
Après, là, la question qu'on peut se poser, c'est à quel niveau, à quel moment il juge ou il détermine qu'on sait en fait vraiment. Parce que demi-savant, on l'est peut-être tous un peu finalement. On ne sait pas tout.
Oui,
de
mais
toute manière.
Ce qui serait important, c'est de savoir justement qu'on ne sait pas tout.
C'est à ce niveau-là qu'il place cette histoire de savant entre guillemets et de demi-savant. D'accord. Ouais. C'est cette conscience de ne pas tout savoir justement.
C'est exactement ça. Ouais.
Donc on peut voir en fait que. La lecture de, bon, que ce soit de Descartes ou de Pascal, d'une certaine façon rassure, pas rassure dans un sens mou ou disant à tout tout va bien, mais elle rassure en disant ce ne sont pas des personnes qui se croient au-dessus de la mêlée.
Non.
Au contraire, ils dénoncent ceux qui vont utiliser un savoir pour se placer au-dessus, mais c'est pas du tout le but de Pascal.
Non,
alors on voit à travers tout ça, c'est qu'en dépit de tous ces apports mathématiques, en dépit de tout savoir, il reste quelqu'un qui prône l'humilité avant tout.
Mmh.
Alors, on peut peut-être dire deux mots aussi de ces autres apports mathématiques.
Oui, qui sont importants.
Pour terminer cette émission, on invite nos lecteurs à se pencher sur la question donc de ce problème qu'on appelle la roulette ou de la cycloïde. Lorsque Pascal a étudié cela au XVIIe siècle, il s'intéresse à savoir la trajectoire qui est décrite par un point qui roule sur un cercle qui lui-même est en train de rouler sur un plan. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il va préparer ce qu'on appellera plus tard le calcul intégral ou le calcul des infinitésimaux. Et ça c'est remarquable.
Il sera repris après par Leibniz.
Par Leibniz et par Newton. Et donc, c'est vraiment un mathématicien de premier plan. Et donc, toute notre physique va être dépendante de ça.
Il a aussi beaucoup travaillé sur les probabilités. Et là, pour le coup, ça nous amènera justement à la question du pari,
Pari. Et on voit donc, à chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, il y a une découverte, une réflexion métaphysique.
Il peut y avoir une réflexion métaphysique.
Et à propos des probabilités, ce qui est très intéressant, c'est qu'il appelle pas ça les probabilités, il appelle ça de différentes expressions, le calcul des parties, mais aussi la géométrie du hasard.
C'est joli.
Bon, ben, merci à toutes et à tous. Je rappelle que les deux prochaines semaines, ce seront des rediffusions des deux premières émissions consacrées au travail scientifique de Pascal. Et puis ensuite, revenant de l'exposition de la BNF, nous aurons peut-être plus de choses à dire sur le Pascal métaphysicien, le Pascal qui prône l'humilité, le Pascal philosophe, le Pascal chrétien. Et rendez-vous donc lors des prochaines émissions des Neveux de René.